Péroua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec et Abdourahmane Dia en direct de la capitale américaine. Vendredi 18 janvier 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 temps universel. Au sommaire ce soir.
Les réactions à Kinshasa après les déclarations de l'Union africaine demandant la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle.
Cela nous permettra de rétablir la vérité des urnes. C'est à ce moment-là que le peuple congolais sera rassuré.
Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé devront encore patienter en prison. La CPI a décidé de suspendre leur mise en liberté.
L'élection présidentielle en Algérie fixée au 18 avril, le président Bouteflika n'a pas encore dit s'il va se représenter.
Le président Trump a reçu le bras droit de Kim Jong-un à la Maison-Blanche afin de sortir les négociations nucléaires de leur impasse.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Un communiqué sans précédent des chefs d'État de l'Union africaine sur la situation en République démocratique du Congo indique qu'il subsiste des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante, Ekabadou.
À l'issue d'une rencontre hier à Addis Abeba, l'initiative du président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, les présidents africains ont demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs, car de doutes sérieux demeurent selon eux sur les résultats proclamés par la CENI. Le 10 janvier, l'opposant Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur, tandis que le PPRD au pouvoir garderait une confortable majorité à l'Assemblée nationale. L'autre opposant, Martin Fayoulou, qui revendique la victoire avec 61% des voix, a salué la position de l'Union africaine pendant que le parti de M. Tshisekedi se dit scandalisé. La Cour constitutionnelle, saisie de deux recours, doit proclamer les résultats définitifs dans les jours qui viennent. L'Union africaine va renvoyer lundi à Kinshasa une délégation conduite par le président de la Commission, le Tchadien Moussa Faki Mahamat et le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, régulièrement accusé d'ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo.
Et nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé ce vendredi qu'il espérait que le processus électoral en RDC s'achèverait sans violence et dans le plein respect de la volonté exprimée par la population.
L'ONU a déploré la décision du Cameroun de renvoyer de force cette semaine au Nigeria plusieurs milliers de réfugiés. Dans un communiqué, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est dit extrêmement alarmé par les informations faisant état du retour forcé de plusieurs milliers de réfugiés dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, en proie à des violences. Le Cameroun accueille actuellement plus de 370 000 réfugiés, dont quelques 100 000 venus du Nigeria.
Par ailleurs, les militaires nigériens ont repoussé hier une nouvelle attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une de leurs bases près de la maison du chef d'état-major de l'armée dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, régulièrement le théâtre de raids. C'est ce qu'ont indiqué ce vendredi des sources sécuritaires et des témoins.
Énième rebondissement dans l'affaire Gbagbo. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre Charles Blégoudé, acquittés d'accusations de crimes contre l'humanité, seront maintenus en détention à la Cour pénale internationale, au moins jusqu'au 1er février. Détail avec Raïssa Girondin.
L'ancien président ivoirien reste en prison. La chambre d'appel de la CPI a cédé. L'accusation a voulu maintenir en détention Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé, son ex-ministre, qui ont été tous les deux acquittés mardi. La procureure Fatou Bensouda a jusqu'au 23 janvier pour déposer ses arguments quant à la décision de faire appel sur la remise en liberté des deux acquittés. La défense et les parties civiles ont jusqu'au 29 janvier pour faire parvenir leurs réponses argumentées. Enfin, la chambre d'appel a programmé une audience le 1er février pour entendre d'autres arguments sur cet appel, a précisé dans un communiqué la cour basée à La Haye. Après cette audience, les juges décideront soit de maintenir les deux hommes en détention jusqu'à un éventuel procès en appel sur leur acquittement, soit de leur accorder une liberté conditionnelle ou inconditionnelle. Aucun détail n'a été donné sur la date de leur décision.
Un magistrat kényan a prolongé de 30 jours la détention provisoire de 5 personnes soupçonnées d'implication dans l'attaque djihadiste cette semaine contre un complexe hôtelier de Nairobi. Une attaque qui a fait 21 morts. Les 5 hommes ayant perpétré l'attaque sont morts dans l'opération.
L'élection présidentielle en Algérie se déroulera le 18 avril selon un décret présidentiel cité par l'agence nationale Algérie Presse Service. Nathalie Barge.
Selon la loi électorale algérienne, les candidats ont 45 jours à partir de la publication du décret, soit jusqu'au 4 mars, pour déposer leur dossier auprès du Conseil constitutionnel. Le mandat du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, expire le 28 avril. Le parti au pouvoir FNL l'appelle depuis des mois à se représenter pour un 5e mandat, une position qui fait grand débat dans le pays. Affaibli par les séquelles d'un AVC en 2013, le président octogénaire n'a pas encore fait part de ses intentions. Pour la présidentielle en 2014, M. Bouteflika avait déposé sa candidature juste avant l'expiration du délai. En 1999, il avait remporté l'élection présidentielle après le retrait de ses 6 adversaires qui dénonçaient des fraudes. Il a été réélu dès le premier tour pour les scrutins suivants. En 2009, le Parlement avait supprimé la limitation des mandats présidentiels à 2, mais en 2016, il a adopté une nouvelle révision de la Constitution qui réintroduit cette limitation.
Amnesty International qui appelle le Soudan à mettre fin à la répression meurtrière des manifestations anti-gouvernementales qui secouent le pays depuis près d'un mois.
Et l'ONU dénonce l'usage excessif de la force par les forces de sécurité au Zimbabwe lors de la répression de la fronde sociale qui agite ce pays.
Au Togo, le Centre national de transfusion sanguine n'arrive plus à satisfaire les besoins en sang. Il y a une grave pénurie à cause de la baisse radicale des donneurs. Des parents et des malades font la queue à longueur de journée pour obtenir ce liquide vital. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Le Centre national de transfusion sanguine du Togo n'arrive plus à satisfaire les besoins en sang. Et pour cause, le centre est en proie à une grave pénurie. Compte tenu de la rareté des donneurs, le centre se retrouve dans l'incapacité de répondre aux sollicitations. Des parents des patients font leur queue en longueur de journée pour acheter ce liquide vital sans avoir gain de cause. Certains vont au Ghana voisin pour s'approvisionner afin de sauver la vie de leurs proches. Le sang n'est pas un produit comme tout autre. Sans donneur, c'est impossible d'en avoir en stock afin de satisfaire les besoins, commentent les responsables de ce centre qui lance un appel à la population. À la recherche du sang, les patients qui sont des donneurs sont privilégiés à temps à prix. Je suis à la centre pour acheter le sang. J'étais le numéro 15, mais j'étais la seule donneur sur la liste. Et heureusement, le groupe sanguin que je cherche était disponible, témoigne Alicia à la quarantaine. J'ai été la première à être servie, a indiqué la jeune dame invitant la population à répondre aux campagnes de dons de sang. Comme quoi, ex-donneur donne des privilèges. Tylerson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, Donald Trump a reçu le bras droit de Kim Jong-un à la Maison-Blanche pour des entretiens cruciaux en vue d'un nouveau sommet entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen. L'objectif est de sortir les négociations nucléaires de leur impasse. Cette rencontre en cours à la mi-journée avec Kim Jong-chol dans le bureau ovale porte sur la poursuite des progrès vers la dénucléarisation définitive et complète vérifiée de la Corée du Nord. C'est ce qu'a déclaré la présidence américaine.
En Syrie, au moins 11 personnes, dont 7 djihadistes, ont été tuées dans une attaque à la bombe à Idlib, dans le nord-ouest du pays. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque visait le groupe Hayat Tahrir al-Sham, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.
Nouvel épisode du dossier russe. L'opposition démocrate dit être prête à ouvrir une enquête sur des graves accusations contre Donald Trump, qui, selon le site BuzzFeed, aurait expressément demandé à son ancien avocat, Michael Cohen, de mentir au Congrès. Audition de 2017 qui portait sur un projet immobilier en Russie. Le site d'information dit s'appuyer sur 2 sources policières fédérales anonymes.
Par ailleurs, une escort girl belarusse connue pour avoir promis des révélations sur le rôle de la Russie dans les élections américaines a été entraînée de force en territoire russe par la police alors qu'elle transitait dans un aéroport de Moscou, alors qu'elle comptait retourner chez elle au Bélarus. C'est ce qu'affirme son avocat. Nastia Rybka avait assuré être mêlée à un scandale politique avec le magnat russe de l'aluminium.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
On passe à l'actualité économique dans la Minute Éco présentée par Nanit Talani.
La Minute Éco avec Nanit Talani. Au Cameroun, les prix de l'eau et de l'électricité concernant les tranches sociales connaîtront une baisse à partir de février. Ce rabais des prix est dû à une exonération du paiement de la TVA contenue dans la loi des finances 2019 et qui sera désormais appliquée sur ces tranches. Les autorités espèrent ainsi contribuer à améliorer aussi bien le climat des affaires que le niveau de vie des populations en facilitant l'accès à l'eau et l'électricité.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Première victoire pour l'Espérance Tunis en Ligue des Champions.
Oui, malgré le huis clos imposé par la CAF, les sangs et or ont logiquement disposé des Zimbabwéens du FC Platinum sur le score de 2-0. Auteur d'un doublé à la 24e et 64e, l'avant-centre Taha Yassine Kemissi a été le grand artisan de ce succès. Une semaine après son match nul initial en Guinée contre le Oroya 1-1, le champion d'Afrique en titre empoche donc sa première victoire dans le groupe B.
Qu'en 2019, l'Égypte demande à la CAF d'avancer le tournoi d'un jour.
La demande de la Fédération égyptienne de football d'avancer l'ouverture de la compétition au vendredi 14 juin est en cours d'étude, a déclaré Nathalie Rab, directrice de la communication de la CAF. Les responsables égyptiens souhaitent ainsi faire coïncider la cérémonie d'ouverture au stade international du Caire avec le premier jour du week-end, le vendredi en Égypte, pour attirer plus de supporters. En principe, la date prévue est du samedi 15 juin au samedi 13 juillet. Le tournoi se jouera pour la première fois à 24 équipes contre 16 au des éditions précédentes.
Le président de la FIFA voudrait une Coupe du Monde à 48 équipes dès 2022.
Oui, initialement, le basculement devait s'opérer en 2026, mais Gianni Infantino milite pour que ce changement intervienne dès l'édition 2022 au Qatar. Présent hier à Marrakech, au Maroc, en marge du sommet exécutif de la FIFA, le président de l'instance mondiale du football a de nouveau évoqué cette hypothèse. Écoutons Gianni Infantino.
Ça, c'est déjà décidé. À partir de 2026, il y aura 48 équipes. Puisqu'on pense que c'est la bonne décision d'aller à 48, on analyse si c'est possible de le faire déjà en 2022. La grande majorité des fédérations souhaiteraient bien sûr qu'il y ait plus d'équipes, comme ça il y a plus de chances de participer. Ça ne va pas être simple d'organiser une Coupe du Monde à 48 pays dans le Qatar uniquement, parce que ça fait quand même 16 équipes de plus. L'idée serait d'organiser quelques matchs en dehors du Qatar, dans des pays limitrophes.
Oumar Niasse prêté à Cardiff jusqu'à la fin de la saison.
Oui, l'attaquant sénégalais d'Everton a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Cardiff. Oumar Niasse, passé par le Locomotive Moscou et Hull, vient renforcer le secteur offensif peu productif des Bluebirds. En attendant l'éventuelle arrivée de l'attaquant nantais Emiliano Sala, qui passe sa visite médicale aujourd'hui. Le club gallois est actuellement 17e de la Première Ligue.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Abdourahmane Dia et Morgane Guerriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe maintenant au dossier du jour.
En République démocratique du Congo, la position de l'Union africaine qui demande la suspension de la publication des résultats de la présidentielle fait réagir la classe politique à Kinshasa. Si la coalition Lamuka, soutenant Martin Fayoulou, s'en félicite, la coalition au pouvoir dénonce. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Seule la coalition Lamuka est pour cette proposition de l'Union africaine. Pour Eve Bazaïba, la directrice de campagne adjointe du candidat Martin Fayoulou, cela permettra de rétablir la vérité des urnes.
À notre niveau, Lamuka, nous avons salué cette conclusion de la réunion des pairs de l'Union africaine. Cela nous permettra de rétablir la vérité des urnes. C'est à ce moment-là que le peuple congolais sera rassuré.
Au Front commun pour le Congo, par contre, on affirme que l'Union africaine ne peut donner des injonctions à la République démocratique du Congo qui reste un État souverain et qui de ce fait compte sur ses seules institutions. Jean-Pierre Kambila, le directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila et cadre du FCC.
L'organisation de l'État africain n'est pas un État. Nous sommes là-bas parce que nous le voulons. Nous n'avons pas donné une partie de notre souveraineté à l'organisation de l'État africain. Donc, la République démocratique du Congo a le droit d'organiser ses élections et de suivre les procédures prévues par les lois de la République. Aujourd'hui, nous attendons que la Cour constitutionnelle de notre pays décide. Et c'est cet arrêt-là qui devrait être mis en application.
Ce point de vue est également partagé par Maître Peter Kazadi de l'UDPS Tshisekedi.
Depuis l'annonce de cette nouvelle, j'ai cherché la charte qui constitue l'Union africaine. Je l'ai lue pour voir les fondements juridiques d'une telle position. Je n'ai trouvé nulle part où il est permis à une organisation comme l'IA d'interférer dans l'administration de la justice d'un pays. Je pense que ça va m'enlever même toute fierté d'être Congolais. Que nous puissions obtempérer à une injonction d'une instance qui n'a ni droit ni compétence d'interférer dans notre administration judiciaire.
Maître Willy Wenga, juriste et avocat au barreau de Kinshasa Matete, affirme quant à lui que l'Union africaine ne peut instruire un de ses États membres. Ses décisions sont des simples recommandations.
Nulle part au monde, on a déjà eu à assister publiquement à une organisation qui donnerait des injonctions à une institution judiciaire ou juridictionnelle de faire ou de ne pas faire quelque chose.
Quelques étudiantes interrogées à ce sujet s'en remettent, elles, à la Cour constitutionnelle.
Moi, je demanderai à l'Union africaine de donner la chance à la Cour constitutionnelle de publier le résultat définitif. Je ne trouve pas pourquoi l'Union africaine doit venir en République démocratique du Congo et se mêler de nos problèmes.
L'Union africaine est en train de vouloir nous mettre dans un chaos parce qu'elle parlait des dialogues pour savoir comment organiser le gouvernement. Il devait faire ça avant même de commencer les élections.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'Union africaine a donc adopté une position très rare en appelant à la suspension de la proclamation définitive des élections du 30 décembre. Donc, le Haut Conseil consultatif des chefs d'État a mis en doute la conformité des résultats provisoires publiés par la CENI. Une délégation de haut niveau doit se rendre à Kinshasa lundi pour discuter avec toutes les parties prenantes de la suite à donner. Et pour une analyse, Eric Manerakiza a joint à Dakar le spécialiste de l'Union africaine, Ibrahim Khan.
Elle s'explique par le cas particulier de la RDC. Vous savez que la RDC est le plus grand pays d'Afrique du point de vue de la superficie. La RDC est le pays qui a le plus de frontières limitrophes à 9 pays africains. Et donc, s'il y a une crise dans un tel pays qui perdure ou qui risque de dégénérer, il n'y aura que des problèmes en cascade sur le continent. Donc, cette décision, elle est d'abord politique. C'est-à-dire, elle ne préjuge pas de ce que sera la décision finale. Elle vise, de mon point de vue, à essayer de voir comment on peut instaurer un dialogue politique qui va permettre de faire accepter toute décision juridique qui viendrait à être prise par la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi la décision demande qu'il soit sursis la proclamation des résultats, en attendant de voir comment on peut régler le problème. Autant d'ingrédients qui risquent, si on ne prend pas les devants, d'embraser la région. Et je pense que donc cette démarche-là, c'est vraiment une bonne approche.
La partie lésée avait déjà saisi la Cour constitutionnelle, telle qu'elle-même recommandée par l'Union africaine. Est-ce que c'est pour dire que maintenant l'Union africaine renvoie sa copie?
Il faut comprendre cette décision-là dans un contexte particulier. Et vous savez que actuellement, on est dans le contexte où on attend la proclamation des résultats. Le problème qui se pose, c'est de savoir sur quel résultat la Cour va se baser pour proclamer le vainqueur. La CENI refuse de rendre public ses résultats. La CENCO, qui a supervisé une bonne partie des opérations électorales, ne veut pas aussi rendre public la totalité. Elle en a déjà rendu public un certain nombre. Et les résultats sont contradictoires. Dans un contexte pareil, si on ne veut pas vraiment aller tout droit vers le précipice, on doit quand même essayer de calmer les jeux.
Jusqu'où l'Union africaine peut aller si Kinshasa ignorait carrément de prendre en compte son appel?
Elle peut imposer des sanctions, ils peuvent même aller jusqu'à des sanctions économiques. Les différents acteurs seraient bien inspirés de ne pas tirer sur la corde. Mais elle peut aussi faire en sorte que le pays soit en quarantaine. Et en plus, il y a des voisins importants de la RDC qui sont impliqués. L'Angola, qui est non seulement la partie qui aide à l'entrée de beaucoup de biens dans le pays et qui est aussi une puissance militaire. Vous avez la Zambie, ils ont quand même beaucoup de moyens de pression. Je trouve que les dirigeants seraient vraiment bien inspirés de faire très attention dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils vont faire dans les heures et les jours à venir.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du VIH-Sida et du mariage.
De plus en plus, le test du Sida fait partie des examens prénuptiaux exigés par les partenaires. Dans certains cas, la séropositivité d'un des partenaires met un terme au projet de mariage.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Philippe Thuniou, médecin en RDC, qui nous dira s'il est possible de vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs.
Nous écouterons le témoignage de Joël, un séropositif marié à une femme séronégative. Nous avons aussi recueilli les avis de quelques auditeurs.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Au Nigeria, l'épineuse question du développement des espaces urbains pose toujours problème. À Abuja, la capitale fédérale, certains quartiers n'ont cessé de s'étendre de manière anarchique ces dernières années. Le correspondant de VOA Afrique, Gilbert Tamba, est allé à la rencontre des résidents de l'un de ces espaces que les autorités tentent de démolir sans succès depuis des années.
L'endroit s'appelle Mpape, l'une des plus grandes agglomérations à la périphérie d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Des milliers de personnes vivent ici, impossible de savoir combien exactement dans ces grands quartiers de tôle. Il n'y a ni eau ni électricité. Michael travaille dans un cabinet d'avocats au centre-ville d'Abuja, mais il vit à Mpape depuis plus de 10 ans. C'est un cauchemar pour lui de se rendre dans son travail à cause des embouteillages sur l'unique voie qui mène au quartier. Un voyage qu'il finit régulièrement en moto pour arriver à son domicile.
Comme le gouvernement ne veut pas s'occuper des gens qui viennent à Mbappé, vous voyez le plan de construction du quartier, les gens construisent n'importe comment, il y a des routes, mais les maisons sont tellement serrées entre elles, ce n'est pas l'aussi. Et le temps pour moi de quitter ma maison pour le travail n'est pas aussi facile à cause de l'embouteillage. Nous n'avons qu'une seule voie d'entrée et sortie à Mbappé.
Dans ces quartiers, l'hygiène est un souci permanent. Depuis l'établissement illégal de ces bidonvilles, l'État n'a jamais développé l'endroit de peur de voir affluer de nouveaux arrivants. Malgré tout, plus de 200 000 personnes viennent chaque année grossir la population de Mpape. C'est le cas de Tengurut. Elle est arrivée ici en 2018 en provenance du sud-est du Nigeria.
Because of the accommodation is very cheap.
Ici, le loyer nous coûte moins cher, mais les défis ici sont nombreux. Pas de route, la route est mauvaise, ici les choses ne sont pas aussi chères. Ensuite, nous avons un problème d'électricité. Il y a aussi trop de poussière à Mpape.
En 2017,
les autorités d'Abuja avaient tenté de démolir le quartier, mais les résidents se sont opposés. La décision du gouvernement avait été finalement contestée devant une haute cour fédérale d'Abuja qui a refusé la démolition du quartier. Raison évoquée, le gouvernement n'avait initié aucun moyen de compensation pour la population, ni un autre site pour les transférer. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Ghana produit environ 900 000 tonnes de cacao chaque année. Cela fait de ce pays le deuxième exportateur mondial, juste derrière la Côte d'Ivoire. Pour profiter pleinement de la filière, le Ghana veut désormais transformer localement une bonne partie de sa production cacaoyère. Le récit de Jacques Aristide.
Si vous consommez les boissons chocolatées ou carrément du chocolat, il y a de fortes chances que le Ghana en ait pour quelque chose. Mais au lieu de tout exporter, ces producteurs entendent aujourd'hui fabriquer leur propre chocolat.
Nous devons ajouter de la valeur à notre cacao. Si la demande augmentait localement, cela ne ferait que nous aider. Il serait préférable de produire du chocolat localement plutôt que de l'exporter.
Parce que pour les agriculteurs ghanéens, l'exportation n'est pas aussi lucrative.
La fabrication locale du chocolat a démarré modestement, de 2 à 5% de notre production totale de cacao. Mais nous pensons que le secteur de la confiserie reste la voie à suivre. Nous parlons essentiellement de valeur ajoutée. Cela va se développer.
Niche est le premier exportateur de chocolat du Ghana, avec environ 60 tonnes de fèves semi-transformées chaque année. L'entreprise fabrique 200 tonnes de son propre chocolat, un chiffre appelé à grimper, en partie grâce à l'aide du gouvernement.
Il n'y a pas de taxes à l'importation sur les machines et autres matériels. Et puis, vous avez un moratoire de 10 ans pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés.
Mais ce sont surtout les grandes entreprises qui en tirent profit. La majorité des petits producteurs de cacao ghanéens ne bénéficient d'aucun soutien gouvernemental et opèrent des fois sans électricité, ce qui pour l'heure les contraint toujours à se tourner vers le marché extérieur.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Firmin Koyawida, à la présentation Morgane Guiriec et Abdourahman Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellent week-end à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa.
Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Et tout de suite,